France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Il faut relancer le marché automobile à la peine dans l'ensemble de l'Europe. Évidemment, on sait pourquoi. Qui peut se payer une voiture neuve aujourd'hui, et a fortiori d'ailleurs électrique? Les constructeurs et les autorités l'ont dans le viseur. On relance aujourd'hui même le leasing social pour les voitures électriques qui avait été un tel succès lors de la saison 1 que toutes les voitures étaient parties en 6 semaines. C'est peut-être votre cas d'ailleurs, vous allez nous le raconter. Le système reste le même. 50 000 voitures et des critères à remplir qui sont des critères assez stricts pour être éligibles que nous vous détaillerons si vous le souhaitez. Mais ce coup par coup ne va pas suffire. Les constructeurs entendent revenir à de plus petits modèles mis en vente sous la barre des 15 000 euros. Sauf qu'ils ont besoin de contreparties pour faire tomber les prix. Et ils le disent, ils veulent être affranchis de normes multiples qui sont d'autant d'exigences en matière de sécurité. Le fameux GSR2, c'est-à-dire les aides à la conduite, les radars, les détecteurs d'obstacles, les régulateurs de vitesse, les enregistreurs de données, tous ces matériaux sophistiqués coûtent cher à la fin sur le prix d'une voiture. Lâcher du lest, c'est donc ce que demandent les constructeurs à l'Europe, qui est en train de dire « Ok, faisons des modèles plus simples et donc moins chers ». Et puisque la porte est ouverte, les constructeurs, veulent en profiter pour glisser à Ursula von der Leyen que si on pouvait éventuellement reculer la fin du thermique pour permettre à chacun d'avoir une voiture à bas prix, ce serait pas plus mal. En face d'eux, ils ont des gens comme vous qui achetaient souvent, particulièrement tout le temps, des voitures d'occasion qui faites réparer jusqu'à ce que le contrôle technique dise stop. Et on a l'impression sur ces sujets que c'est un peu le diable qui se mord la queue. On a tous bien compris que nous étions dans une période de transition, mais encore loin de lâcher l'idée d'une voiture, devant un marché de l'automobile qui tâtonne tout en voulant continuer à vendre des voitures. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que vous vous dites, vous? Est-ce que vous dites encore 5 minutes, s'il vous plaît, monsieur le bourreau, promis, j'y vais, mais descendez-moi d'abord les prix? Ou est-ce que vous dites plutôt à ce stade électrique ou thermique, de toute façon, je ne prendrai que ce qu'il y a de moins cher? Qui peut acheter une voiture neuve aujourd'hui? C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Christophe, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Christophe.
Eh bien, écoutez, moi, je suis commercial. Je fais entre 50 et 60 000 km par an sur toute la France. En 2019, j'ai acheté une voiture neuve pour exercer cette profession. Donc, j'ai pris une voiture française, 5 portes, boîte automatique, moteur 110 chevaux, diesel, etc. Quand j'ai voulu la renouveler, fin 2024, je suis retourné dans le même garage pour avoir une nouvelle voiture. Et là, on m'a dit que les moteurs diesel ne se faisaient plus, qu'il fallait choisir entre une essence, une électrique ou une hybride. L'électrique, je ne me convenais pas parce qu'il n'y avait pas d'autonomie. L'essence m'aurait coûté cher et donc il fallait partir sur un modèle hybride. Donc la même voiture en modèle hybride, on m'a annoncé un tarif à 35 000 euros. Et la voiture que j'avais achetée en 2019, neuve, m'a été facturée 20 000. Mmh. Alors je précise juste que le tarif annoncé à 35 000, c'est un tarif non négocié, alors que la voiture a acheté 20 000, j'avais quand même négocié un petit peu le prix. Du coup, j'ai acheté une voiture d'occasion.
Bah ouais, c'était le sens de ma question. Mais vous l'avez acheté à essence, électrique, hybride, vous avez acheté comment?
J'ai acheté une voiture diesel d'occasion. Okay. J'ai repris la même que celle que j'avais avant, que j'avais achetée en 2019. J'ai repris le même modèle, j'en ai trouvé une d'occasion, qui avait 70 000 km et puis qui va très bien.
Et alors vous avez une grosse voiture et vous conduisez beaucoup, Christophe, mais est-ce que si demain vous avez des constructeurs qui viennent et qui vous disent « je vais vous faire un autre modèle, je vais vous faire quelque chose, ce sera moins cher, ce sera plus facile de l'acheter neuve », est-ce que vous dites, je sais pas, est-ce que vous mettez vos billets sur la table en disant « pour voir » ou est-ce que pour l'instant, de toute façon, vous attendez, vous ne changez rien à vos habitudes?
Moi, je ne suis pas fixé sur un véhicule en particulier ou sur une motorisation particulière. Simplement, j'estime que quand on fait des hausses de tarifs qui sont de plus de 50% sur 5 ans, ça me semble exorbitant. Donc, si vous voulez, je suis quand même, si j'avais une voiture neuve à acheter aujourd'hui, effectivement, il faudrait quand même que le prix baisse sérieusement aujourd'hui, quoi, clairement.
Merci Christophe pour cette entrée en matière, merci pour votre témoignage, pour discuter ensemble jusqu'à 20h ce soir autour de la table. Il y a Diane Strauss, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice du bureau français de l'ONG européenne Transport et Environnement. Il y a Flavien Neuvy, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Vous voyez réagir, Flavien Neuvy, au témoignage de notre ami Christophe. Réagir un peu comme si vous l'aviez entendu 200 fois cette histoire, en fait.
Oui, parce que le témoignage de Christophe illustre le fait que effectivement, quand on regarde alors sur ces 5 dernières années, mais même si on prend un peu plus de recul sur ces 20 dernières années, les prix de vente des voitures neuves ont explosé en fait, et plus de 2 fois plus vite que l'inflation. Et qu'il y a plusieurs raisons à cela. Il y a une première raison qui est liée effectivement à des normes. Alors, vous citiez la norme sur les aides de conduite, mais il y a aussi les normes de dépollution. Donc, les constructeurs doivent beaucoup investir. Il y a aussi le fait que les constructeurs font des voitures un peu plus grosses, un peu plus équipées, et que plus la voiture est chère, plus ils font des marges. Donc, c'est une responsabilité un peu partagée. Mais au final, en fait, quand on regarde aujourd'hui les acheteurs de véhicules neufs, d'abord, on n'en vend pas beaucoup en France, hein, ça, c'est sûr. On n'en vend pas beaucoup. On est même revenu à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis 50 ans. Mais quand on regarde les acheteurs de véhicules neufs, on se rend compte que c'est les 20% de ménages qui ont les revenus les plus élevés qui peuvent encore acheter des voitures neuves. Et les autres ménages, même quand ils en ont les moyens, ils préfèrent acheter des véhicules d'occasion parce que c'est trop cher. Et puis effectivement, il y a le flou technologique, on y viendra certainement, qui suscite de l'attentisme, de l'hésitation. Et très souvent, effectivement, quand on voit le marché de l'occasion, on voit bien que les ventes de diesel se portent bien. D'ailleurs, ça soutient les prix de vente de diesel parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent du diesel sur le marché de l'occasion.
Diane Troche, il y a une chose que dit Flavien Neuvy. Il dit où effectivement, les gens veulent des voitures plus grosses, des voitures plus équipées. Et c'est vrai qu'il y a eu ce moment-là, il y a eu cette tendance, on avait l'impression qu'on vendait que des SUV. Dans ce pays. Et puis on entend bien, on voit bien là les constructeurs, et c'est aussi ce qui a motivé notre sujet ce soir, qui sont en train d'essayer de revenir à d'autres voitures, à revenir à des modèles plus petits qu'on avait quasiment vu disparaître. On a l'impression qu'il y a un tâtonnement en fait total pour savoir, bon alors comment on se refait la cerise en fait ? Est-ce qu'on le fait avec des gros ? Est-ce qu'on le fait avec des petits ? Est-ce que c'est ça qui se passe à votre avis dans la tête des constructeurs ?
Alors, les constructeurs ont vendu des voitures très grosses, très équipées et très chères parce qu'ils avaient une stratégie qu'on appelle de marge. C'est-à-dire qu'ils ont vendu moins de voitures, mais plus chères à des ménages plus aisés. C'était en effet des SUV et c'est comme ça qu'ils ont fait des très belles années puisqu'ils ont vu leurs bénéfices tripler entre 2021 et 2023 par rapport à 2019. Donc, là, ils ont vraiment fait des belles années. Et en fait, maintenant, les prix de vente, notamment de l'électrique, sont en train de diminuer. En raison de la réglementation des objectifs climatiques européens qui sont sur les constructeurs, puisque les constructeurs doivent vendre de plus en plus d'électriques et donc ils sont plus ou moins obligés de baisser leurs prix pour réussir à vendre à plus de ménages. Là, on arrive vraiment au bout de leur stratégie de grosses voitures, de vente de grosses voitures, puisqu'on voit bien que les ventes s'écroulent en fait sur le neuf et qu'on n'arrive plus à vendre des voitures neuves parce que les prix sont trop chers.
Donc il faut pouvoir vendre de l'électrique, y compris pour pouvoir continuer. Là aussi, on a un peu l'impression que on n'a pas encore trouvé la clé en fait de ce serpent de mer là. Est-ce que c'est que le prix en fait qui a fait que de toute façon on n'a pas décollé là-dessus ? Il y a d'autres raisons, Flavien Neuvy ?
Alors il y a le prix sur la voiture électrique, il y a le prix, mais il y a aussi on a mené plein d'études sur la voiture électrique. La première, elle remonte à 2012. À l'époque, on n'en vendait pas du tout d'ailleurs, mais on a refait une étude en 2019, juste avant la crise sanitaire, sur la voiture électrique, et on est revenu sur le sujet en 2024. Et en fait, on a vu que les lignes avaient beaucoup bougé dans l'image, la perception de la voiture électrique. En 2019, pour le dire de façon très simple et résumée, elle avait une très bonne image, voiture écolo, propre, qui incarne le progrès technologique, etc. Et puis, les choses ont un petit peu basculé dans l'opinion publique, avec notamment la hausse des prix de l'électricité, auquel on a assisté. Il y a eu la promesse de dire, vous allez payer votre voiture électrique plus cher, mais vous allez économiser finalement à l'usage de votre voiture. Donc la hausse des prix de l'électricité a semé le doute. Et puis après, il y a eu un discours, effectivement, qui a été un peu plus critique sur la voiture électrique dans le débat public, j'entends, d'une façon générale.
Enfin, en même temps que le backlash écologique, etc., ça va aussi en
oui,
même
aussi,
temps.
Oui, aussi, d'une certaine façon, oui. Et puis, il y a un deuxième élément dont on parle quasiment jamais, donc j'en profite.
Allez-y.
C'est que quand on avait 2% de vente en électrique, en fait, les 2% de vente électrique, c'était des ménages qui avaient le portrait robot idéal pour la voiture électrique. C'est-à-dire qu'ils avaient un garage, l'usage leur convenait parfaitement et donc ils étaient très contents de leur voiture électrique. Mais quand on augmente et qu'on élargit le nombre d'acheteurs de véhicules électriques, quelquefois l'expérimentation à l'usage n'est pas bonne. Si on reprend l'exemple de Christophe, très clairement, un automobiliste qui fait beaucoup de kilomètres et qui doit recharger sa voiture longtemps, forcément, il a un retour d'expérience qui est un peu moins bon.
Mais je trouve ça intéressant, Diane Strauss, parce que visiblement, les constructeurs sont en train de viser d'autres cibles. Certainement pas Christophe, en fait. Il n'est plus dans la cible, en tout cas pour l'instant. On est effectivement dans une voiture à moins de 15 000 euros, électrique de préférence, mais pourquoi pas thermique aussi. On est dans des petits modèles. On est en train de revenir à ce petit modèle. Et ça veut dire quoi, en fait ? Est-ce que ça veut dire offrons aux gens une voiture qu'ils ont les moyens de s'offrir et de préférence neuve ? Ou qu'est-ce que ça veut dire d'autre en fait ? Ou alors ça veut dire on va essayer de remettre des voitures en ville, tiens, par exemple, comme ça on les fait tout petites, on fait des citadines.
Il y a beaucoup de choses, mais oui, alors en effet. L'idée de voiture de vendre des voitures plus moins chères, pardon, l'idée de vendre des voitures moins chères, ça va vraiment être d'élargir la base de ménages qui peuvent acheter des voitures, et on va voir des ménages qui sont plutôt des classes moyennes pouvoir accéder à la voiture électrique, et ça c'est vraiment nouveau. Mais il faut rester sur l'idée qu'on a des ménages qui achètent sur le marché du neuf, qui sont quand même relativement aisés, et que pour que tous les ménages aient accès à l'occasion, à la voiture, il faut qu'ils aient accès aussi à la voiture électrique.
Mais je fais quand même une incise. Alors, effectivement, le marché de l'occasion sur l'électrique, on en a fait moult sujets ici, effectivement, on ne voit pas réellement à quoi il peut ressembler aujourd'hui. Mais je fais quand même une incise, parce que le leasing social qui repart là aujourd'hui même, c'est aussi la raison pour laquelle on a voulu en parler ce soir, est vraiment réservé aux ménages qui sont les plus modestes. C'est un foyer fiscal autour de 16 500 euros pour une personne, donc ce sont des foyers fiscaux qui sont vraiment modestes. Ça avait extrêmement bien marché la première fois, vraiment en 6 semaines c'était écoulé. Donc moi je trouve ça un peu paradoxal, il y a à la fois ce que vous dites, effectivement, il y a une espèce de réticence qui est venue à un moment, Flavien Neuville, vous avez raison, et en même temps il y a un désir quand même, puisque ça part en claquant des doigts. Donc en fait, elle est où cette équation finalement ?
La barrière principale, c'est le prix quand même, parce que la voiture neuve est beaucoup plus cher aujourd'hui qu'il y a 5 ans, 20 ans, etc. Mais la voiture électrique est encore plus chère que la voiture thermique. Donc en fait, la barrière du prix, c'est vraiment la barrière première. Et d'ailleurs, comme vous le dites à l'instant, le leasing social première version a très bien marché. 50 000 voitures à des ménages aux revenus modestes qui se sont précipités pour acheter une voiture électrique. Et je pense que le leasing social version 2, quand on regarde les précommandes chez les constructeurs, on voit que ça marche très bien aussi. Donc il y a une forte demande pour des ménages qui effectivement souhaitent accéder à la mobilité électrique, mais pour lesquels finalement la barrière financière est trop importante. Donc le dispositif est bien ciblé et normalement ça devrait bien marcher.
Mais ce qui est intéressant, Diane Strauss, c'est que ces gens qui sont ciblés sont des gens qui, de fait, n'achètent jamais de voitures neuves. En fait, ce n'est pas un public de voitures neuves, les gens qui sont ciblés pour ce genre de choses. Et ça marche chez eux.
Oui, tout à fait. La voiture électrique fonctionne généralement auprès des utilisateurs. 90% des conducteurs de voitures électriques sont satisfaits de leur véhicule. On voit en effet que le leasing social a été très bien souscrit la première année. Pour comprendre vraiment quel est l'enjeu et l'intérêt du leasing social, il faut connaître les étapes de vie d'une voiture. En fait, une voiture, elle va d'abord être vendue neuve, principalement, généralement, à des entreprises qui représentent plus de la moitié des achats de neuf, des grandes entreprises. L'autre moitié, c'est comme on le disait, les ménages aisés. Ces grandes entreprises, quand c'est elles qui achètent ou qui louent, elles vont revendre la voiture sur le marché de l'occasion au bout de 3-4 ans.
Ouais.
Et donc c'est elles qui vont vraiment permettre de mettre à disposition des voitures électriques aux classes moyennes. Ces classes moyennes, elles vont acheter une voiture électrique et la garder 7 à 10 ans, et puis enfin, elles vont la revendre, et c'est là que les classes très modestes vont pouvoir accéder finalement à la voiture électrique. Et donc, on comprend bien qu'il y a certaines classes de la population qui pourront avoir accès à la voiture électrique que dans une dizaine d'années. Et donc, le leasing social, il a pour vocation à aller chercher ces publics-là qui normalement achètent de l'occasion de seconde main, vraiment seconde occasion, et leur offrir une voiture neuve. Et en plus, le leasing social, ça a cet intérêt industriel qui est que ça génère plus de demandes pour les voitures électriques made in EU.
Retour, parce que c'est ça qui compte effectivement, retour au standard où nous attend Philippe depuis un moment, pardon. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Merci.
On vous écoute Philippe.
Ah oui, écoutez, j'avais une sorte de cri du cœur en voyant le thème de votre émission.
Je vous en prie, criez.
Consistait à dire, voilà, moi je ne fétichise pas la voiture, c'est juste un moyen de déplacement. Bon, les intérêts industriels en jeu, je ne les ignore pas, mais du point de vue de l'utilisateur que je suis, il me semble qu'il faudrait, pour rendre les voitures plus accessibles, juste arrêter la surenchère technologique, le surarmement à tous les gadgets, qui par exemple aujourd'hui nous empêche de conduire sur la neige quand on a une voiture ordinaire parce qu'on ne peut plus ni freiner ni accélérer. Et donc ça, voilà, il faudrait réinventer en quelque sorte et généraliser le concept initial de Dacia, sans faire de publicité, c'est-à-dire revenons aux choses simples.
Merci beaucoup Philippe pour cette remarque, vous n'êtes pas tout seul là-dessus. En préparant cette émission, je disais, je crois que c'est dans le Parisien d'ailleurs, Flavien Neuville, un monsieur qui disait, moi j'ai acheté une voiture, pas un vaisseau spatial. Mais ça joue, et je dis que ça joue parce que par ailleurs, la plupart de ces gens les réparent leurs voitures, enfin il faut être capable de mettre le nez sous le capot. Si on sait qu'on va acheter quelque chose dont on ne saura même pas mettre le nez sous le capot, ben on n'y va pas.
Oui, alors c'est quand même une responsabilité partagée, c'est-à-dire que les constructeurs ont leur part de responsabilité parce qu'ils ont eu tendance à suréquiper les véhicules, ce qui avant c'était des options, on pouvait choisir ou pas de prendre des options,
mais on
se sont équipés en série.
Bon.
Donc ça se répercute sur le prix de vente final et donc ça coûte très cher. Donc des voitures plus simples, c'est possible, mais il faut aussi, et les constructeurs sont montés au créneau, et je pense quand même qu'ils ont raison dans une certaine mesure, que la réglementation leur permette de faire notamment des mini-citadines, des voitures qui vont rouler essentiellement en ville, en cycle urbain, de faire en sorte qu'elles soient plus facile, plus simple, et qu'il n'y ait pas besoin de les suréquiper en matière d'équipement de sécurité routière, parce que ça aussi, ça coûte cher. Donc c'est vraiment une responsabilité partagée. La norme, la réglementation et les constructeurs, ce qui, à la fin, fait effectivement des voitures qui sont très très équipées. On n'utilise pas toujours la moitié des équipements embarqués.
Est-ce que ce serait possible pour un constructeur de le jouer presque à la carte ? En fait, voilà la voiture que vous utiliserez si vous prenez l'autoroute, si vous partez en vacances, etc. Donc les normes de sécurité, même si c'est un petit modèle, les normes de sécurité, les voici. Si vous l'utilisez de manière urbaine, etc., les normes de sécurité, les voilà. Et pour que les gens comprennent bien de quoi on parle, on n'est pas en train de parler de mauvais pneus ou de freins qui seraient défectueux, hein. On parle des freinages actifs d'urgence, de l'allumage automatique, des feux de détresse, là je les ai sous les yeux, de la direction d'obstacles en marche arrière, de la détection, avertissement de la somnolence du conducteur, de l'aide au maintien dans la voie, etc. Toutes ces choses qui sont désormais devenues obligatoires au niveau européen, en fait.
Oui, alors, en termes de sécurité routière, on comprend bien la logique et l'objectif. Simplement, équiper une routière avec quelqu'un qui va faire, comme votre premier auditeur, 50 000 à 60 000 km sur autoroute par an, on voit bien que les usages ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui va utiliser sa voiture essentiellement dans les villes à 30 ou 50 km/h et demander les mêmes équipements aux constructeurs, ça n'a pas beaucoup de sens. Et au final, effectivement, ça a plutôt tendance à rendre la vente de petits véhicules extrêmement complexe parce que trop cher.
Vous, Diane Strauss, votre ONG s'appelle Transport et Environnement, et on sait bien que les constructeurs ont été voir Ursula von der Leyen en leur disant baisse-moi les normes, descends-moi les normes, et que Ursula von der Leyen est en train de dire oui. Est-ce que ça s'appelle un recul ? Est-ce qu'on est toujours dans ce recul face à l'environnement ? On parlait d'un retour de bâton tout à l'heure. Est-ce qu'on est toujours dans cet état d'esprit-là ? Ou est-ce qu'on s'est rendu compte, en effet, qu'il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait enlever ? Là, en l'occurrence, pour ce qui est de la construction automobile, en tout cas.
Alors, les constructeurs demandent en effet des ajustements sur les normes de sécurité, mais aussi largement sur les normes climatiques. En fait, comme on l'a vu, ces normes climatiques, on appelle ça normes, mais c'est des objectifs en fait, de réduction d'émissions de CO2. Elles ont fait en sorte que les constructeurs produisent en Europe des petits véhicules électriques abordables. Et le fait de revenir sur ces objectifs-là, ça va finalement diluer le signal d'investissement vers l'électrique, que ce soit pour les ménages ou pour les investisseurs qui investissent dans la recharge, qui investissent dans les batteries. Et c'est le risque vraiment qu'industriellement, on rate le coche sur la transition vers l'électrique et sur l'industrie de l'électrique. Donc c'est, de notre point de vue, c'est vraiment très important de continuer à garder ce signal pour 2035. Les constructeurs vont y arriver, comme on le disait jusqu'à présent, ils ont fait des belles années. Maintenant, l'enjeu, c'est de réussir à produire des voitures en Europe électrique.
Alors, deux choses. Est-ce que c'est vrai, en effet, que si on enlevait un certain nombre des normes dont vous parlez, oui, les voitures seraient beaucoup moins chères sur le marché, donc au-dessous de 15 000 euros. Est-ce que c'est une réalité ou pas ? C'est-à-dire, quand ils arrivent avec cet argument-là, Ursula von der Leyen ne peut pas leur répondre, c'est pas vrai.
En fait, tout dépend si vous parlez de voitures électriques ou de voitures thermiques. Pour les voitures thermiques, la majorité des emplois des voitures thermiques ont déjà été délocalisés. Après, si vous voulez faire de la voiture électrique en Europe, bien évidemment, l'Europe a un certain nombre de normes environnementales et sociales qui font qu'on... Et puis, c'est une industrie naissante qui font que les voitures électriques européennes peuvent être en dessous de 20 000 euros, on le verra en 2026, parce qu'il y aura des modèles qui seront en dessous de 20 000 euros, mais ils resteront peut-être plus chers que leurs concurrentes chinoises. Et c'est pour ça qu'il faut que l'Europe aide l'industrie automobile et toute la filière de la chaîne de valeur de la batterie à devenir compétitive, notamment avec des aides d'État sur les batteries. Et ça, c'est vraiment une politique, une stratégie industrielle qu'il faut que l'Europe développe. Mais en tout cas, c'est vraiment le sens de l'histoire que de produire des véhicules électriques, et si possible sur notre sol.
L'une des choses qu'on a compris en même temps que les constructeurs essayaient de dire à Ursula von der Leyen, en l'occurrence, il faut baisser les normes, comme ça je vais pouvoir faire des véhicules qui sont plus petits et qui seront donc moins chers. On a bien compris qu'ils avaient aussi mis le pied dans la porte en disant, et par la même, si je pouvais aussi continuer à faire des voitures techniques qui seront petites et qui seront moins chères, et si on pouvait bouger effectivement la limite de 2035, finalement on s'en porterait pas plus mal. Qu'est-ce qu'on en dit de ça, Flavien Neuvier ? Est-ce que c'est ça aussi, pour l'instant, qui est dans l'air chez les constructeurs ? Cette limite 2035, elle ne tiendra pas ? On peut mettre le pied dans la porte ?
Alors, du côté des constructeurs, oui, clairement. On a le sentiment qu'ils essayent, là, les constructeurs européens, français, allemands, de pousser dans ce sens. Il faut quand même rappeler que l'objectif de 2035, il est relativement récent et que la transition vers le 100% électrique se fait dans un laps de temps très court, dans une industrie lourde, où c'est compliqué quand même, on ne fait pas des changements comme ça du jour au lendemain. et qu'aujourd'hui les constructeurs sont confrontés à une difficulté, c'est que quand on regarde la trajectoire initialement prévue pour arriver au 100% électrique en 2035, on n'y est pas. Quand on regarde les ventes de 100% électrique en Europe, on est à 15%, on devrait plutôt être à 25% aujourd'hui. Donc on a un petit peu de retard.
Et on comprend pourquoi on retourne au leasing, on se souvient que les Allemands se sont cassés la figure quand ils ont intégralement arrêté les aides, etc.
Absolument.
On se souvient de
donc c'est difficile pour les constructeurs qui ne peuvent pas obliger non plus leurs clients à acheter de la voiture 100% électrique. Donc ils sont confrontés à une vraie difficulté, avec des clients, on en a parlé tout à l'heure, qui hésitent, qui se posent des questions. Et derrière, évidemment, la Commission européenne, elle prend en compte effectivement les objectifs climatiques à 2050, neutralité carbone, et donc il faut interdire dès 2035 la voiture thermique. Mais il y a aussi des enjeux économiques, parce que l'industrie automobile en Europe, ça fait quand même encore travailler beaucoup de monde. Effectivement, il y a une concurrence chinoise qui arrive. Et donc tout ça, il faut les intégrer pour essayer de faire le choix le plus pertinent possible. Mais objectivement, c'est très compliqué. Voilà, c'est pas facile.
Voici Marc, qui est dans le Pas-de-Calais. Bonsoir Marc.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je vous remercie. Vous avez bien précisé qu'effectivement, j'habite le Pas-de-Calais. Donc, c'est une région rurale. Mm-hmm. Donc, sans voiture, vous n'existez pas dans le Pas-de-Calais. Mm-hmm. Alors, je résume ma situation. Je viens d'acquérir une voiture. Non, pas une voiture. Je viens d'acquérir des kilomètres. Mm-hmm. Donc, je rectifie votre question. C'est pas qui peut encore acheter une voiture, mais qui peut aujourd'hui et qui doit peut-être aussi acheter des kilomètres. Mm-hmm. Alors, vous me direz, des kilomètres, ça veut dire qu'en fait, derrière, on loue une voiture. Non, on l'achète des kilomètres. Et ça entraîne un mental différent. C'est-à-dire que c'est vraiment une révolution dans le cerveau. C'est-à-dire que au lieu de vous dire, ben voilà, je fais 22 000 km par an, maintenant je vais faire 20 000 km par an, donc il reste 10%. Ces 10%, où est-ce que je les mets? Je les mets dans les très courtes distances et j'achète un vélo qui me permet de faire les très très courtes distances, et ces 10% je les trouve, et s'ils ne sont pas suffisants, je diversifie par des longues distances que je fais, par des transports en commun, par le TGV, etc. Ce qui veut dire qu'en fait la réduction, je me l'impose, et j'entre dans un processus qui n'est pas l'achat d'une voiture, mais l'achat de kilomètres.
Voilà, mais au bout du compte, excusez-moi, il y a un truc que j'ai toujours pas compris quand même, Marc, mais au bout du compte, j'entends bien que vous comptez vos kilomètres, et que c'est comme ça que vous avez mis votre cerveau, en gros, pour pouvoir le diminuer, mais vous avez quand même une voiture au bout du compte, qui est à vous.
J'ai une voiture au bout du compte.
Oui, d'accord, qui est à vous. Non, mais c'est la vôtre. Je veux dire, vous avez acheté une voiture. C'est pas une voiture que vous louez, c'est pas, etc.
J'ai pas acheté de voiture.
Ah.
J'ai un contrat de 4 ans au cours duquel la voiture ne m'appartient plus.
Ah oui, d'accord. Ça y est, j'ai compris. Bah, pardon. Il m'a fallu du temps, mais ça y est, j'ai compris, effectivement. Et je vois que Diane Strauss a compris, elle, tout de suite, à la seconde où notre ami Marc a commencé à parler. L'achat de kilomètres.
Disons qu'en fait, je perçois cette envie d'innover un peu sur les modèles de déplacement. C'est sûr que l'achat d'une voiture électrique, c'est un modèle qui est, disons, issu de l'histoire, hein, l'achat d'une voiture. Mais on va voir de plus en plus les solutions de location se développer, le financement, comme on dit, c'est-à-dire finalement d'avoir des loyers et de pouvoir se séparer de sa voiture au bout d'un moment. Et puis, je partage avec l'auditeur cette idée qu'il y a beaucoup de déplacements qui peuvent se faire sans voiture et qu'on va vers finalement une pluralité de moyens de se déplacer. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un des enjeux assez importants de l'accessibilité finalement, c'est aussi les investissements qui sont faits dans les infrastructures, que ce soit les bornes de pistes cyclables, les bornes de recharge, mais aussi bien évidemment des transports en commun qui peuvent être comme le car express régional qui vous amène sur la route avec un transport en commun. Donc j'entends cette idée que finalement on cherche peut-être une solution d'accessibilité qui est quelque part entre l'achat par un ménage, comme on disait, assez aisé, et le leasing social qui est, comme on disait, pour les ménages très modestes.
Parce que Flavien Neuvy, il est clair qu'il peut y avoir effectivement différentes solutions. Désormais, on adopte différentes solutions. Des choses ont changé dans notre perception. Et puis, il y a ceux pour lesquels rien n'a changé. Et parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il faut aller travailler, emmener les enfants à l'école, emmener les enfants au judo, etc. Et qui ont, eux, des kilomètres qui sont de toute façon des kilomètres incompressibles. Et ces gens-là, en général, ont une grande difficulté à acheter une voiture neuve de toute façon à n'importe quel autre moment. Mais surtout, est-ce que l'idée que l'industrie automobile revienne à des hauteurs qui étaient ces hauteurs il y a quelques années, est-ce que ça a encore du sens, en fait? À partir du moment où un certain nombre de pratiques sont en train de changer, même doucement, il y a ceux qui en auront toujours besoin, et ça je l'entends, et puis il y a les autres, un peu comme notre auditeur à l'instant, qui a un peu changé sa manière de voir. Donc est-ce qu'il faut de toute façon viser ce que nous étions?
Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que on ne s'en rend pas forcément compte, mais la mobilité quotidienne des Français, elle change profondément. Mmh. Notamment dans les grandes métropoles, où effectivement la part modale du vélo, des mobilités actives, du transport en commun augmente au détriment de la voiture. Donc la place de la voiture recule dans les grandes métropoles parce qu'on peut se déplacer autrement. Dans les zones périurbaines et rurales, la voiture reste centrale dans les déplacements. Mmh. Pour aller au travail, emmener ses enfants à l'école, faire les courses. Pour autant, est-ce qu'on reviendra, pour répondre à votre question, au niveau que nous connaissions avant crise sanitaire 2019? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas.
C'était le sens de ma question. Est-ce que c'est grave, docteur? Alors, pour l'industrie qui emploie beaucoup de monde, je peux comprendre. Hein, si je travaillais dans l'automobile, m'interrogerais.
Il y a du pour et du contre. Le pour, c'est que si on produit moins de voitures, on va mettre moins d'acier. Sur le plan environnemental, il y a un côté positif à moins produire de voitures. Néanmoins, ce que l'on constate, c'est le parc roulant français vieillit. Les voitures qui roulent sont de plus en plus âgées. Donc en matière de sécurité routière, avoir des véhicules qui en moyenne ont 11 à 12 ans sur nos routes, c'est moins bien qu'avoir un véhicule neuf qui malgré tout est quand même mieux équipé. Et en matière de pollution, plus le parc est vieillissant, notamment pour la pollution atmosphérique, plus le parc est polluant. Donc il y a toujours du plus et du contre, c'est pas noir ou blanc, c'est plutôt gris. Ce qui est sûr, c'est que on ne pourra pas rester à des niveaux de marché en Europe, autour de 12 millions, très longtemps. Mmh. Parce qu'on a des capacités de production qui sont très importantes. Il y a eu des annonces du côté de chez Stellantis, on a des annonces chez Volkswagen. On voit bien que l'industrie automobile souffre beaucoup sur le plan économique. Derrière, il y a des emplois, il y a des gens qui y travaillent.
Stellantis, c'est aujourd'hui.
Aujourd'hui, il y a une nouvelle annonce.
Exactement.
Mais du coup, oui, très clairement, sur le plan économique, je vais rester sur le côté économique, l'industrie automobile a besoin de retrouver des volumes, pas forcément ceux qu'on avait avant crise sanitaire, mais il faut repartir en croissance parce que aujourd'hui, les usines tournent très nettement en sous-capacité, elles sont en sous-capacité de production, et là, c'est un gros problème économique.
L'une des autres options, c'est de réinventer un modèle de véhicule qui resterait une voiture, mais qui serait différent, ce qui commence à exister dans certains pays, on pense à la CAI, il y a des choses comme ça dans certains endroits, on va y venir, mais je voudrais d'abord qu'on aille voir Gérard qui nous attend. Bonsoir Gérard.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Gérard.
Oui, alors, je téléphone du Calvados, là, de Caen, enfin à côté de Caen. Alors, je voudrais tout simplement souligner le fait que le coût des réparations des voitures n'est plus du tout en rapport de ce que les gens gagnent maintenant. Mmh. Quand vous avez des ouvriers, des employés qui gagnent 1200 euros par mois, et quand vous avez une réparation de voiture qui coûte 1300 ou 1400 euros sur des voitures qui sont extrêmement compliquées, eh bien, c'est un gros problème. Alors moi, je vous avoue, quand on parle de pouvoir d'achat, pour moi, le pouvoir d'achat, c'est pas de baisser 2 centimes sur le kilo de pâte ou 5 centimes sur le beurre. Pour moi, le pouvoir d'achat, il passe dans des problèmes de cet ordre-là. Et les contrôles techniques, je comprends qu'il faille des contrôles techniques pour la sécurité. Seulement, les contrôles techniques sont devenus tellement sévères que c'est une véritable angoisse pour les Français modestes qui doivent passer leur voiture. Si vous avez un voyant qui est allumé sur la voiture parce qu'il y a un problème électronique, votre voiture, elle ne va pas passer parce qu'il y a un voyant d'allumé. Alors moi, je vous avoue, franchement, j'ai bien aimé vos débuts d'émission parce que vous avez dit que l'Europe était quand même responsable parce qu'il y avait des tas de normes et que les constructeurs étaient obligés d'appliquer les normes. Ça, j'ai bien aimé votre façon d'analyser. Alors donc, je dis, moi, effectivement, qu'il faut baisser les normes parce que ça ne sert à rien d'avoir des voitures compliquées. Moi, je suis... Et puis, je voudrais faire une autre observation. Quand on regarde les jeunes, maintenant, les jeunes, ils sont tous avec des... Comment on appelle ça? Des trottinettes, là. Et bien, pourquoi? Parce que maintenant, ils ne peuvent plus acheter de voiture. Ils ne peuvent plus passer le permis.
J'allais dire, ni passer le permis aussi. Mais enfin, bon...
Le permis. Et moi, je trouve, si vous voulez, eh bien, moi, je voudrais défendre les jeunes parce qu'on est en train de faire une société à deux vitesses. Là.
Merci.
Voilà ce que je voulais dire.
Eh bien, vous l'avez bien dit. Merci beaucoup. Et on va appuyer sur ce que vous dites, Gérard, c'est promis. Alors, les jeunes, ils sont en trottinette plutôt dans les espaces urbains, par ailleurs. Je ne leur conseille pas de faire ça dans le Calvados, du côté de chez Gérard. Mais il a raison, Flavien Neuville. Ça coûte super cher. Plus la voiture est sophistiquée, évidemment, et on comprend pourquoi, plus c'est cher de la faire réparer, plus surtout, on le disait tout à l'heure, quand on met le nez dans le moteur, on a beau être un réparateur, on n'y comprend rien. Enfin, je veux dire, moi, je suis de la génération où mon père avait des ampoules dans le coffre. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre de savoir, je ne suis pas de voiture, je suis urbaine, mais je ne suis pas sûre de savoir enlever le phare pour pouvoir remplir l'ampoule, quoi.
Voilà. Non, mais c'est même quasiment impossible, en fait, sauf à être vraiment très bricoleur. Et on a l'impression que quelquefois, c'est même fait un peu exprès pour que vous ne puissiez pas le faire vous-même. Et après, les moteurs sont devenus très complexes. Si vous n'avez pas de boîtier électronique pour entrer dans le moteur, vous ne le faites pas. Sur le contrôle technique, ce qui vient d'être dit par votre auditeur est très vrai. Vous discutez avec n'importe quel garagiste indépendant, vous parlez 5 minutes avec lui, il va vous donner des témoignages, il va vous citer des témoignages de gens qui viennent faire la prévisite en disant « s'il te plaît, fais en sorte que mon contrôle technique passe ».
Évidemment.
Parce que s'il ne passe pas, c'est la catastrophe. Mm-hmm. Non seulement je n'aurai pas les moyens de faire les réparations, mais en plus, je perds l'utilisation de ma voiture, je ne peux pas acheter une nouvelle voiture. Donc derrière ça, il faut bien comprendre une chose, hein, c'est qu'il y a de la détresse. Mm-hmm. Il y a de la détresse, il y a de l'inquiétude, il y a du stress, parce que la voiture, si vous perdez l'usage de votre voiture pour une raison technique, parce que vous n'avez pas le contrôle technique, derrière, c'est comment vous faites pour aller travailler. Donc le témoignage est vraiment très intéressant et correspond à la réalité de beaucoup, beaucoup de Françaises et de Français aujourd'hui.
Et qui réparent leur voiture, effectivement, longtemps, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que le contrôle technique, effectivement, finisse par dire stop. Mais c'est aussi ça, la vie d'une voiture. Et c'est peut-être ça, dans une certaine catégorie de population, celle qui est visée typiquement par le leasing, Diane Strauss, et c'est ça qui est peut-être aussi un peu paradoxal. Parce qu'une fois qu'on l'a, la voiture électrique, là aussi, hein, on peut toujours soulever le capot. On ne sait pas comment ça se répare. Donc s'il se passe n'importe quoi sur cette voiture, ça devient compliqué pour les gens qui la possèdent. En leasing ou pas ?
Oui, oui, c'est vrai pour les voitures électriques comme pour les voitures thermiques maintenant, qui
mais électriques
sont aussi,
encore plus, honnêtement,
extrêmement compliquées. Ouais. Ce qui est certain, c'est que, en effet, les constructeurs ont commencé à faire des voitures de plus en plus complexes. Et d'ailleurs, on a souvent une confusion sur le fait d'avoir dans les voitures électriques des batteries, des terres rares. En réalité, la majorité des terres rares utilisées, c'est pour l'électronique de la voiture embarquée. Et donc, ça fait des voitures qui sont très polluantes. Donc, en effet, il y a une nécessité de revenir à quelque chose qui soit plus simple, plus réparable. C'est vrai aussi de la batterie.
Ouais.
Parce que une des raisons pour lesquelles les ménages hésitent à acheter de l'électrique d'occasion, c'est aussi qu'ils ont assez peu d'informations sur l'état de santé de leur batterie. Et donc, il va falloir à terme que cette information soit publiée par les revendeurs de voitures pour que les ménages soient en confiance au moment où ils achètent de l'électrique.
On a Benoît qui a écouté notre conversation sur WhatsApp et qui dit ceci. Effectivement, voilà ce qu'il faut. Il faut une réponse adaptée à chaque contexte de déplacement. Est-ce que ça a du sens d'imaginer, Flavien Neuvy, que l'objectif de l'industrie mobile aujourd'hui, c'est ça, en fait. Avoir une réponse adaptée à chaque contexte de déplacement et y compris en inventant peut-être autre chose également à côté de la grosse berline, la petite citadine et la Flavien Neuvy.
Non mais vous savez, la mobilité, c'est passionnant en fait, parce que c'est au cœur de nos modes de vie. On ne peut pas parler de mobilité si on ne parle pas d'urbanisme, si on ne parle pas d'aménagement du territoire, si on ne parle pas du travail. Et donc en fait, la mobilité, effectivement, elle évolue parce que nos modes de vie évoluent. Si on parle de la périurbanisation, on a eu tendance à se déplacer un petit peu, à aller sortir des villes pour essayer d'avoir un pavillon, notamment dans les régions françaises. Ben forcément, votre mobilité, elle n'est plus tout
bien
à
sûr.
Fait la même. Et donc c'est très intéressant d'analyser. Les lignes ont beaucoup changé, ont beaucoup bougé. Elles bougent encore. Moi, je reste optimiste. Je pense qu'effectivement, on va réussir à trouver la mobilité de demain, décarbonée, notamment dans les villes. Après, très clairement, la voiture individuelle dans les zones périurbaines et rurales, je pense qu'elle restera très longtemps, alors électrique peut-être, mais elle restera très longtemps indispensable pour des millions de Françaises et de Français.
Voici Bruno qui nous attend. Bonsoir Bruno.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Mais voilà, moi je voulais intervenir parce que je roule en voiture électrique depuis 10 ans et j'entends donc régulièrement que la voiture électrique coûte cher, et moi je vous assure, en voiture électrique, je gagne de l'argent. Le calcul est très simple, la grande majorité des gens financent leur voiture par un emprunt bancaire. Si vous comparez la mensualité du financement d'une voiture thermique à celui du financement d'une voiture électrique, vous aurez une mensualité certes inférieure, puisque au départ, si on voit les choses à court terme, eh bien, la voiture électrique coûte évidemment plus cher. Mais à cela, vous devez ajouter le budget essence à la fin du mois. Et là, on va avoir un budget mensuel qui dépasse celui de la voiture électrique. D'autant plus que l'électricité, vous pouvez la consommer la nuit avec un tarif extrêmement bas. Et si en plus, vous avez la chance d'avoir des panneaux photovoltaïques, ce qui est quand même le cas de plusieurs milliers de ménages en France, oui, eh bien, à ce moment-là, vous avez un coût d'électricité qui est proche de nul. Vous devez ajouter à cela le budget pour l'entretien de la voiture. Vous n'avez pas de frais de remplacement de plaquettes de frein, pas d'embrayage à remplacer, des choses comme ça. Et donc, en fin de compte, la voiture voiture électrique, sur le long terme, coûte moins cher que la voiture thermique.
Est-ce qu'on sait dire, merci beaucoup pour votre témoignage Bruno, est-ce qu'on sait dire ce que c'est le long terme, Diane Strauss ? À partir de quel moment, effectivement, parce qu'il a raison, sur le fond, à partir de quel moment c'est rentable en fait ?
Ça va beaucoup dépendre de la taille de la voiture, du nombre de kilomètres que vous faites, mais globalement, oui, c'est vrai qu'une voiture électrique, à partir du moment où vous êtes un rouleur fréquent, que vous avez des trajets pendulaires, je dirais de plus de 40 kilomètres aller-retour, ça va être assez vite économique. C'est d'autant plus économique pour les entreprises. On a dit que les entreprises étaient...
Mais assez vite, pardon, mais c'est au bout d'un an, au bout de deux ans
Ça dépend des modèles, ouais. Ça dépend des modèles, mais autour de trois ans, on commence à déjà retomber sur ses pieds financièrement. Et si sa voiture électrique depuis 10 ans, on peut dire sans prendre de risque, effectivement, il gagne de l'argent, il économise de l'argent.
Bruno, vous êtes encore là ou pas ?
Oui, je suis toujours là.
Est-ce que vous avez dû changer votre batterie ou pas, d'ailleurs, en 10 ans ?
Alors, jamais. J'ai vendu une voiture électrique après 10 ans et j'ai fait tester la batterie. Elle était encore à 92% de capacité.
D'accord.
Donc, voilà, je pense que là aussi, il y a des idées préconçues qui circulent.
Écoutez, merci en tout cas de nous avoir apporté votre témoignage. On a celui de Gilles sur WhatsApp qui me fait rire. Il dit ceci. Les constructeurs ont sciemment ignoré les besoins des gens. Des autos simples et efficaces, avant d'être belles et grosses, électriques ou pas, n'y changera rien. Et je crois qu'il se trompe, Gilles, en fait. Parce qu'on est quand même un peu fichu comme ça, non, Flavien Neuvy ?
Quand on regarde les critères d'achat d'une voiture...
Simple et efficace, sans aucun doute.
Oui, mais belle, les critères d'achat. Alors, il y a le prix, bien sûr. On va laisser de côté puisqu'on en a beaucoup parlé, mais il y a le design quand même.
Ouais.
Est-ce qu'elle plaît ou pas ? Il y a toujours un côté un peu irrationnel. On voit certains modèles qui marchent très bien parce qu'elles ont un look un peu particulier.
Bah oui.
Donc il y a un côté un peu irrationnel. Il y a un élément qui est très important, c'est la fiabilité et la robustesse.
Ouais.
Voilà, il faut qu'une voiture soit fiable et solide. Compte tenu du prix qu'on y met, c'est la moindre des choses.
Vous m'étonnez. Très très rapidement, Diane Strauss, parce qu'on a déjà dépassé le temps, mais je vous en prie.
Oui, je dirais aussi, il y a les voitures qui plaisent aux entreprises et puis il y a les voitures qui plaisent aux ménages. Et comme vous le voyez, les entreprises sont quand même des gros acheteurs de voitures. Ils achètent plutôt des voitures grosses et équipées, alors que les ménages en fait vont plutôt sur des petites citadines, segment A, segment B. Et donc on peut penser qu'en effet les voitures de ces dernières années n'ont pas été vraiment adaptées aux besoins des ménages.
Chacun son usage et adapter les besoins aux usages, ça fera gagner du temps à tout le monde. Merci beaucoup, merci vraiment.